Épître aux Éphésiens, chapitre 6. Nous allons lire les versets 5 à 9. Vous vous souvenez que l'apôtre adressait un certain nombre d'exhortations à ces chrétiens de l'église d'Éphèse, exhortations au couple, exhortations également aux enfants et aux parents, c'est dès le début du chapitre 6, et on arrive maintenant à des exhortations très particulières parce qu'elles s'adressent aux maîtres et aux esclaves. Donc lisons ces versets, Éphésiens 6, verset 5, « Vous, esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et respect, avec droiture de cœur, et cela par égard pour le Christ. N'accomplissez pas votre tâche seulement quand on vous surveille, comme s'il s'agissait de plaire à des hommes, mais agissez comme des esclaves du Christ, qui accomplissent la volonté de Dieu de tout leur cœur. Faites votre travail de bon gré, et cela par égard pour le Seigneur, et non par égard pour les hommes. Car vous savez que chacun, qu'il soit esclave ou libre, recevra ce qui lui revient selon le bien qu'il aura fait. Quant à vous, maître, agissez suivant les mêmes principes envers vos esclaves, sans user de menaces, car vous savez que le Seigneur qui est au ciel est votre maître tout autant que le leur, et il n'agit jamais par favoritisme. Je vous propose de lire aussi le passage parallèle en Colossiens chapitre 3, Épître aux Colossiens, chapitre 3, au verset 22. Colossiens 3, verset 22. Esclaves, obéissez en tout point à vos maîtres terrestres, et pas seulement quand on vous surveille, comme s'il s'agissait de plaire à des hommes, mais de bon gré, parce que vous révérez le Seigneur. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, et cela par égard pour le Seigneur, et non par égard pour des hommes. Car vous savez que vous recevrez du Seigneur comme récompense l'héritage qu'il réserve au peuple de Dieu. Le maître que vous servez, c'est le Christ. Celui qui agit mal recevra quant à lui le salaire que méritent ses mauvaises actions. Car Dieu ne fait pas de favoritisme. Cette mention de l'existence d'esclaves dans l'Écriture, non seulement dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau, donc au premier siècle de notre ère, a quelque chose de choquant pour nous chrétiens du XXIe siècle. Apparemment, la pratique de l'esclavage, le fait qu'un être humain puisse en posséder un autre, a existé quasiment depuis l'aube de l'humanité. En se référant simplement à la Bible, on voit par exemple que Agar, la servante égyptienne de Sarah, l'épouse d'Abraham, avait tous les droits sur elle. Elle en a fait la mère porteuse de leur premier enfant, Ismaël. Elle a par la suite exigé qu'Abraham la chasse de leur clan, ce qui l'a condamnée à une mort très probable dans le désert. Et cela, c'était 2000 ans avant Jésus-Christ. Quand on regarde les infos de Wikipédia sur la chronologie de l'abolition de l'esclavage dans le monde, on constate que très tôt, des pays ont voulu l'abolir, mais avec plus ou moins de succès, car économiquement, cela revenait à se passer d'une main-d'œuvre gratuite, tout simplement. En France, la Révolution de 1789, avec la proclamation des droits de l'homme, l'a aboli dans les colonies françaises, mais il a été rétabli par Napoléon Ier, ce qui n'est pas vraiment à son honneur. Heureusement, il a été à nouveau aboli par la Deuxième République en 1848. C'est quand même pas si vieux que ça. Aux USA, l'esclavage a été aboli en 1865 seulement. Jusque-là, les Noirs africains étaient capturés par des négriers et vendus à de riches exploitants agricoles, principalement dans les États du Sud des États-Unis. Et c'est d'ailleurs un négrier repenti qui a composé le fameux chant « Amazing Grace ». grâce étonnante. Quelle douce voix que celle de celui qui a sauvé un misérable tel que moi. Il s'est rendu compte, cet homme, à quel point sa vie avait été misérable de faire ainsi ce trafic d'esclaves. Donc Paul continue dans ce passage de son épître aux Éphésiens à traiter des relations entre les personnes dans le nouveau peuple de Dieu. Peut-être vous seriez-vous attendu à ce qu'il se lance dans un plaidoyer vigoureux pour l'abolition de l'esclavage. Il n'en est rien. Cela a étonné beaucoup de chrétiens. Notre ancien pasteur, par exemple, Pierre-Yves Chaussin, y voyait un indice que certains textes de Paul étaient trop marqués par les mœurs de son époque pour avoir une valeur contraignante dans nos églises. Mais si Paul ne l'a pas fait, c'est parce qu'il est réaliste et que la parole de Dieu est réaliste. De plus, n'oublions pas que la parole apostolique est inspirée, elle est bien parole de Dieu. Mais si la parole apostolique est inspirée, ce que je crois, notre interprétation de cette parole ne l'est pas, comme le dit C.S. Lewis. Dans la société de l'époque de Paul et dans l'Empire romain, l'esclavage était une organisation sociale essentielle à son fonctionnement, tant économique que culturel. Bien sûr, cette organisation était marquée par la chute et le péché, comme toutes les œuvres humaines. Il faut savoir qu'il y avait des esclaves qui étaient médecins, par exemple, hein, des esclaves qui étaient régisseurs de domaines. Ce n'était pas uniquement des manuels, hein. Mais bon, ils étaient esclaves. Leur maître avait droit de vie et de mort sur eux. Mais Paul va introduire une différence considérable dans les relations entre maître et esclave du fait de leur foi au Seigneur Jésus. Tout comme Paul donne ses exhortations en commençant par ceux qui sont exhortés à se soumettre, voire à obéir, il commence par s'adresser aux esclaves. Alors, il s'adresse d'abord aux esclaves. Verset 5, « Vous, esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec toute la crainte qui s'impose. » Paul utilise là, comme pour les enfants envers leurs parents, le verbe « hupakouo » qui veut dire « obéir hein, » et non le verbe « hupotasso » qui signifie « se soumettre ». Verbe qu'il avait employé pour la soumission volontaire des femmes à leurs époux. Le texte grec dit « avec crainte et tremblement ». Bon, ça peut nous étonner un peu. Ça paraît un peu fort quand même. Mais cette expression n'a pas, je pense, sous la plume de Paul, une connotation de terreur, mais plutôt d'une certaine sollicitude anxieuse vis-à-vis de la qualité du service que les esclaves rendent à leur maître. Je dis les esclaves chrétiens, bien sûr. John Stott écrit à ce sujet « Il ne faut pas confondre cette attitude avec la soumission servile qu'on adopte souvent devant des despotes humains. Il s'agit ici de la crainte respectueuse en face du Seigneur Jésus-Christ, dont le maître humain représente en quelque sorte l'autorité. Obéissez avec droiture de cœur, et cela par égard pour Christ, c'est la traduction du semeur, littéralement en simplicité, en sincérité, c'est-à-dire avec intégrité, sans duplicité, sans mauvaise arrière-pensée, sans hypocrisie. Et de plus, comme pour le Seigneur, comme si leur service était effectué au-delà de leur maître, pour le Seigneur lui-même. Et au verset 6, « N'accomplissez pas votre tâche seulement quand on vous surveille, comme s'il s'agissait de plaire à des hommes, mais agissez comme des esclaves de Christ qui accomplissent la volonté de Dieu de tout leur cœur. » Donc, pas de place pour l'hypocrisie ou la dissimulation. Verset 7, « Accomplissez votre service de bon gré ou de bonne volonté, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, car vous savez que chacun, qu'il soit esclave ou libre, recevra du Seigneur ce qui lui revient selon le bien qu'il aura fait. » Paul exhorte donc les esclaves à mettre toute leur ardeur et même leur cœur à l'exécution de leurs tâches. Il leur rappelle que le Seigneur est aussi leur juge et que toute œuvre bonne, qu'elle soit produite par un homme libre ou par un esclave, sera récompensée avec la même justice. Dans l'Empire romain, les esclaves n'avaient droit à aucun héritage. Dans le royaume de Dieu, ils se constituent, comme tous les hommes, un héritage de récompense qui leur sera accordé selon la justice parfaite de Dieu. Verset 9. Quant à vous, maîtres, agissez suivant les mêmes principes envers vos esclaves, sans user de menaces, car vous savez que le Seigneur qui est au ciel est votre maître tout autant que le leur, et il n'agit jamais par favoritisme. Littéralement, vous, maîtres, faites de même envers eux, vous abstenant de toute menace. Ce « faites de même » insiste sur la réciprocité dans la qualité des rapports entre les maîtres et leurs esclaves. On pourrait résumer, tout comme ils vous servent consciencieusement et de bon cœur, soyez justes et bienveillants envers eux. La relation n'est pas à sens unique, mais réciproque, au sein des règles sociales de l'époque. Paul dit en quelque sorte au maître, si vous voulez être respecté, respectez-les. Si vous vous attendez à être servi, servez-les, par de justes traitements et avantages matériels, par exemple. Et de plus, ce serait abuser de leur position d'autorité que de faire constamment peser sur eux des menaces de punition. Alors, fort heureusement, l'esclavage a été aboli depuis longtemps en Europe et en France, comme on l'a vu, mais pouvons-nous tirer de ces recommandations de l'apôtre des enseignements pour les relations employeur-employés quand au moins l'une des deux parties est chrétienne? Je pense que tout en gardant à l'esprit le fossé fondamental entre le statut d'esclave et de maître et celui d'employé et d'employeur, on peut tirer quelques principes pour vivre chrétiennement nos relations dans le monde du travail. Alors commençons comme Paul par les employés. Je ne peux pas vraiment parler par expérience, car je n'avais pas réellement de patron du temps de ma carrière hospitalière. Certes, j'ai eu des maîtres pendant mes études, et particulièrement pendant mon temps d'internat, où les jeunes médecins sont à la fois étudiants et soignants. J'ai eu également pendant quelques années un chef de service, auquel je devais naturellement me soumettre. Mais cela ne m'a jamais posé problème parce que je lui vouais une certaine admiration. Et il a toujours été très bienveillant envers moi. J'aurais pu avoir un chef de service despotique et désagréable, ça arrive. Mais ça n'a pas été le cas pour moi. Tous les travailleurs qui sont sous autorité d'un chef ne vivent pas des relations aussi faciles, j'en suis bien conscient. L'ouvrier ou l'ouvrière qui travaille à la chaîne sous des contremaîtres quelque peu tyranniques, l'éboueur qui a un travail pénible et peu considéré, ont bien sûr une expérience différente et là l'obéissance peut être parfois plus difficile. Mais même dans ces cas, l'exhortation de Paul reste valable. Faire son travail de cœur comme pour le Seigneur. Voir dans le supérieur hiérarchique une autorité déléguée du Seigneur, même si cette autorité est parfois à bien des égards marquée par la chute et le péché. L'obéissance et un travail bien fait plaisent au Seigneur, et bien sûr aussi à votre patron, même s'il en témoigne peu de reconnaissance. Voyons maintenant l'exhortation adressée par Paul au maître. Je continue à vous raconter ma propre expérience, qui ne vaut que ce qu'elle vaut. Je suis devenu assez rapidement chef de service moi-même, à la tête d'une équipe d'une trentaine de collaborateurs, des collègues médecins, des infirmières, des aides-soignantes, etc. Je rends grâce au Seigneur de ce que mes relations avec mon équipe ont toujours été faciles et heureuses. Nous visions tous le même but, soigner nos malades de notre mieux, tout simplement. Personne ne s'est jamais plaint de dépasser son temps réglementaire de travail lorsque la charge de travail l'imposait. La conscience professionnelle l'emportait sur toute autre considération. J'ai bien conscience de brosser là un tableau idyllique qui ne correspond pas à toutes les situations. Mais c'est ce que j'ai vécu. J'étais heureux chaque matin de partir travailler. Il faut préciser que les conditions de travail, notamment le salaire de mes collaborateurs, ne dépendaient pas de moi, mais des règles de la fonction publique. Notre supérieur hiérarchique à tous était le directeur d'établissement. Mon rôle consistait simplement à défendre le bien-être de mes collaborateurs auprès de l'administration quand c'était nécessaire, que ce soit pour les horaires de travail, les effectifs, etc. Je dois reconnaître que, comme dans tout groupe humain, Chantal et moi avons eu nos canards boiteux. La collaboration avec l'administration de l'hôpital a permis de régler la plupart des problèmes de façon satisfaisante. La situation est certainement bien différente dans les entreprises où le patron est en position d'autorité à tous les niveaux. Non seulement l'exigence d'un travail bien fait, mais aussi la gratification salariale, les sanctions éventuelles, etc. Dans le cas d'un patron chrétien, je pense que les recommandations de Paul s'appliquent aussi. Avant tout la justice dans la façon de traiter leurs employés et aussi la bienveillance, en sachant qu'ils ne disposent en réalité que d'une autorité déléguée par le Seigneur lui-même. Combien de conflits sociaux seraient évités si patrons et employés suivaient les directives de l'apôtre Paul? On trouve de nombreux versets dans l'Ancien Testament qui parlent d'une juste rémunération. Par exemple, Lévitique 19, verset 13. « Tu ne retiendras pas le salaire d'un ouvrier jusqu'au lendemain matin. » Deutéronome 24, verset 14, dit à peu près la même chose. « Tu n'exploiteras pas l'ouvrier journalier qui est d'humble condition ou pauvre, qu'il s'agisse d'un Israélite ou d'un immigré habitant chez toi dans ton pays. Tu lui donneras son salaire chaque jour avant le coucher du soleil, car étant pauvre, il attend sa paix avec impatience. » Sinon, il en appellerait à l'Éternel contre toi et tu porterais la responsabilité d'un péché. Malachie 3, verset 5. Je viendrai à vous en vue du jugement et je me hâterai d'être témoin à charge contre ceux qui privent l'ouvrier de son gain. Et aussi le Nouveau Testament. Colossiens 4, verset 1. On l'a lu, hein, Maître, traitez vos serviteurs avec justice. Et d'une manière équitable, car vous savez que vous avez vous aussi un maître dans le ciel. Et puis dans l'Église, il y a ce passage de 1 Timothée 5, versets 17-18, qui dit « Les responsables qui dirigent bien l'Église méritent des honoraires doubles, notamment ceux qui se dévouent au ministère astreignant de la prédication et de l'enseignement. Car l'Écriture déclare « Tu ne mettras pas de muselière au bœuf qui foule le grain. » Et encore, l'ouvrier mérite son salaire. Bon, c'est intéressant ça. À méditer lorsqu'on décide du salaire d'un pasteur, quand on peut en avoir un. Paul lui-même avait la coquetterie d'annoncer gratuitement l'Évangile. Il ne refusait pas les dons que les églises lui envoyaient, mais chaque fois qu'il le pouvait, il annonçait gratuitement l'Évangile. Mais c'était à l'époque où les prédicateurs n'étaient pas des retraités qui touchent leur pension de retraite. Alors rassurez-vous, frères et sœurs, vos prédicateurs actuels ne réclament pas de salaire.